Alors notre deuxième intervenant, Philippe Gonin, est maître de conférences en musicologie à l'université de Bourgogne. Il a déjà publié beaucoup d'ouvrages. Il est musicologue, ouais, il est musicologue, maître de conférences en musicologie, un vrai musicologue. Voilà.
En termes
Et
d'authenticité.
il va nous parler d'un groupe. Enfin. Moi qui m'a beaucoup, alors encore une fois à titre personnel, qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Cass Product, et dont on considère, je pense qu'on partage cette idée-là, que c'est un vrai groupe punk, tu vas nous en
Oui.
parler, et qui sont originaires de Nancy, me semble-t-il,
Nancy, enfin,
Monastoyog
le
et
groupe est de Nancy, ils
Spetz.
sont pas tous
Voilà,
originaires de
ils ne
Nancy.
sont pas tous originaires de là. Voilà, donc un groupe qui a marqué ce tournant des années 70-80 et qui existe toujours, plus ou moins. Merci.
Merci. Deux, trois petites choses. Enfin, je ne sais pas si hardcore vegan, c'est souvent un qualificatif qui veut dire extrémiste et qui ne correspond pas forcément au genre musical aussi. Parce que j'en connais des hardcore vegan et ils n'écoutent pas beaucoup de punk. Notamment un qui veut faire un Veganville en ce moment. Il a un gros projet en Provence. Tout ça. De la même manière, je ne sais pas si les punks sont devenus vegans ou si ce sont des babas pas cool, en fait, aujourd'hui. Et ça pose toujours la question que je pose à chaque fois, qui est de savoir qu'est-ce que c'est réellement que le punk et est-ce que les groupes dont je parle sont des groupes punk. Jusqu'à présent, j'ai fait deux interventions, une sur Marquis de Sade et une sur les Dogs, donc à Rennes et à Rouen. Et à chaque fois, je commençais mon intervention en disant « ce groupe n'est pas un groupe punk ». Mais il a profité de la dynamique punk pour intégrer une musique qui ne l'est pas dans un courant qui a permis d'avoir de la presse, etc. Pour Cass Product, je vais dire l'inverse. Cass Product est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, vu la musique qu'il fait et surtout la manière dont ils la font avec des synthétiseurs, on pourrait se dire que ce n'est pas un groupe punk. Et pourtant, c'est un groupe qui, lui, est vraiment beaucoup plus punk que ne le sont ou ne l'ont été Marquis de Sade ou les Dogs. Et j'avais envie de commencer cette intervention en écoutant un morceau en intégral. Alors, j'espère que j'aurai assez de temps pour faire tout ça, mais je voudrais quand même qu'on écoute ceci. Et puis, il y a aussi cette chose fondamentale dans Cass Product, c'est elle, en fait, qui fait Mona Soyoc, qui est extrêmement féline, sensuelle, érotique, tout ce que vous voulez, mais qui a beaucoup fait pour ça. Là, on va écouter un morceau qui s'appelle Never Come Back, qui est en noir et blanc, qui va montrer une chose aussi qui peut donner une imagerie à Cass Product, qui est une imagerie un peu industrielle aussi, avec les synthés, et qui est filmée dans une usine désaffectée. Alors, Mona Soyoc m'a expliqué qu'en fait, ils n'ont jamais fait de clip officiel, et que ça, c'est en fait un truc qui a été tourné par FR3 pour une émission de télévision. Puisqu'on ne l'entend pas beaucoup, ça me permet de pouvoir parler sur le clip. On a cet univers ici qui est complètement industriel, d'usines désaffectées, de friches industrielles, etc. Ce n'est pas vraiment leur volonté à eux, hein, sur ce clip-là, même s'ils ont sans doute dit OK. Mais on est tout à fait dans cette esthétique-là. Alors du coup, je vais passer plus vite sur le clip, tant pis. Qu'est-ce que c'est que Cass Product? Qu'est-ce que c'est comme genre? Si on regarde le Wikipédia français, ils nous mettent que c'est un groupe de cold wave français. Alors la cold wave, qu'est-ce que c'est? C'est la new wave qui est froide, comme son nom l'indique, c'est-à-dire des gens qui sont destinés à se pendre très rapidement. C'est Ian Curtis, en fait. Hein? Non, mais je ne me suis pas pendu et j'ai fait partie d'un groupe qui était qualifié de cold wave. Donc je suis toujours là. Et Robert Smith aussi, donc bon. Mais je me souviens très bien en 81-82 qu'après Ian Curtis, on se disait le prochain c'est Robert Smith et que tous les matins, tous les 4 matins, il y avait une nouvelle de Robert Smith est mort. En fait, il est toujours là. Dans le Wikipédia anglais, on trouve que leur musique a été considérée comme une part de la Cold Wave française. D'ailleurs, l'appellation Cold Wave était essentiellement française et on ne la trouvait pas tellement en Angleterre, ou de l'électropunk. Donc on a déjà le mot punk. Et puis en plus, on voit qu'ils vont être reconnus comme des précurseurs de l'électroclash. Bon, est-ce qu'ils étaient tout ça à ce moment-là? J'en sais rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Cass Product avait un côté punk expérimental aussi. On ne peut pas écouter, je vais essayer de mettre rapidement ce morceau, qui est le seul morceau en français qu'ils ont fait qui s'appelait Black and Noir. Et qui donnait à peu près ceci. Ah. Voilà, donc ça, très rapidement, j'en avais mis que 30 secondes. De toute façon, ce que vous avez entendu, c'est à peu près ce qu'il y a sur le 45 tours, qui est un 45 tours autoproduit, et qui était le premier. Ils ont fait deux 45 tours dès 80, qui est à peu près leur année de naissance, 79-80, avec donc Dante Spatz, qui était un infirmier psychiatrique, et Mona Soyok, qui est arrivée, on ne sait pas trop pourquoi, des États-Unis à Nancy, et qui s'est retrouvée donc en couple avec Dante. Maintenant, ils sont un duo, comme ils disent. Avant, ils étaient un couple, maintenant, ils sont un duo. Et comme elle dit dans une interview, c'est lui qui m'a forcé, moi je voulais pas. Et en fait, c'est une chanteuse, une vraie chanteuse à voix. Je reviendrai sur cette question-là. Il y a un personnage qui est très important, deux personnages qui sont extrêmement importants dans l'histoire de Casse Product, qui sont d'une part Gérard Nguyen, qui est vraiment un acteur local, puisque Gérard Nguyen, c'est Atem, c'est toute cette revue qui faisait beaucoup d'articles. Beaucoup sur le rock progressif, hein. Il y a beaucoup d'articles sur des artistes de rock progressif des années 70. Et Jean-Éric Perrin. Je commence par Gérard Nguyen, que j'ai eu au téléphone hier, et auquel je disais comment un gars qui s'occupe de rock progressif se retrouve à être le producteur-manager de Casse Product. En fait, il était à Paris, il est revenu à Nancy, puis on lui dit, tiens, il y a un petit groupe qui est pas mal. Il est allé voir ça, il est tombé amoureux de ce groupe tout de suite, et il a décidé un petit peu de les accompagner. Donc il y avait les deux 45 tours. Et ils ont essayé d'enregistrer un album, ils ont enregistré l'album. Donc l'album, en tout cas le premier album, était complètement enregistré avant qu'ils aient le moindre label. Ils ont fait ça en studio très rapidement. Et puis il y a Jean-Éric Perrin, qui est quand même un acteur majeur, malgré tout, un acteur majeur dans l'histoire du post-punk français, en tout cas de cette nouvelle génération qui commence à la fin des années 70, avec sa petite rubrique, petite parce qu'elle tenait une page, mais grande par l'impact qu'elle a pu avoir, qui s'appelait Frenchy But Chic, dont l'intégralité a été éditée chez Camion Blanc, qui est d'ailleurs connu aussi ici, puisque c'est un éditeur lorrain qui siège à Nancy, enfin Rosière en haie, et qui a réédité tout ça. Et donc Jean-Éric Perrin me disait que il avait entendu par hasard le 45 tours, il ne sait plus trop s'il l'avait acheté ou si le label Punk Records lui avait envoyé ce truc-là, en tout cas il s'est retrouvé avec le 45 tours. Il l'a chroniqué très rapidement dans cette page Frenchy But Chic, et puis derrière le 45 tours, il y avait le numéro de téléphone, il a appelé, il a dit voilà, ça m'intéresse, j'ai envie de voir ça. Donc il a fait le voyage à Nancy, assez frais, il n'y avait pas le TGV à l'époque, hein, donc ça durait un certain temps pour venir à Nancy, et est allé voir Casse Product en concert. Il a été extrêmement impressionné par ces musiciens-là, et donc il a décidé de les suivre, comme il en a suivi beaucoup. Hein, j'interviens dans 15 jours à Lyon, je vais parler de Star Shooter, et je pourrais reparler de Jean-Éric Perrin pour toute la scène lyonnaise, y compris des gens qui n'ont pas enregistré, comme Affection Place par exemple, qui sont tous passés dans cette chronique Frenchy But Chic. Et c'est lui qui, le premier, va donc parler de tout ça, et il va même parler de ce concert, faire une chronique de ce concert, et il va avoir l'album d'ailleurs avant qu'il ne sorte, parce que Nguyen a enregistré donc ce disque en studio avec eux. Il a fait des cassettes qu'il a envoyées un petit peu de partout, puis il est allé chez Virgin, il est allé chez EMI, et on lui a répondu, notamment chez Virgin, que bon, c'était pas mal, mais c'était déjà entendu comme type de musique, et que... voilà, ça les intéressait, mais sans plus. Jusqu'au moment où c'est un mec de chez RCA qui les a appelés, qui leur a dit « Mais moi, ça m'intéresse et je veux signer ça ». Donc, en fait, ils ont d'abord signé les droits d'édition, parce qu'il y a quand même deux choses qui se passent quand on signe avec un label. Il y a le droit d'édition et puis il y a ensuite les droits discographiques. Et donc, ils ont d'abord signé pour l'édition, et ensuite, ils ont fait la signature pour l'album. Et donc, RCA a distribué cet album, pour lesquels ils n'ont pratiquement pas eu d'argent à dépenser, puisqu'il était déjà enregistré, fait, produit, etc. Mais ce qui fait que la popularité de Casse Product a commencé à grandir avant même que le premier album, qui sort en 82, ne sorte, puisque par tout un tas de liens, et notamment les chroniques de Jean-Éric Perrin, il y a des gens qui sont intéressés à eux, et à l'été 81, ils font la première partie de Marquis de Sade, qui était le groupe dominant aussi de cette époque-là, de cette espèce de scène post-punk française. Qu'est-ce qui va différencier? Parce que tout à l'heure, Luc l'a dit, je suis musicologue, donc ce qui m'intéresse, c'est la matière musicale. Qu'est-ce que c'est que Casse Product musicalement? Casse Product, c'est un groupe qui fonctionne avec des synthés. D'où le rapport avec l'électropunk, voire avec une certaine synth-pop britannique, sauf que dans synth-pop, il y a un mot qui s'appelle, qui est pop, et Casse Product n'est pas un groupe pop au sens où on l'entend à l'anglaise. J'en discutais avec Jean-Éric Perrin encore, il me disait, mais non, parce que les Anglais, eux, ils vont tout de suite faire de la musique qui va être beaucoup plus pop, et ce qui s'explique aussi par le fait que les groupes comme Human League ou Depeche Mode étaient intéressés, j'en parle la semaine prochaine dans un autre colloque, étaient intéressés non seulement par l'influence synthétique du krautrock allemand, mais aussi par toute la Northern Soul qui était au nord de l'Angleterre, toute cette soul music qu'on diffusait, ce qui fait que, par exemple, le morceau emblématique de cette synth-pop et ce mélange avec la dance music, c'est le Tainted Love de Soft Cell, qui reprennent un morceau de 64 et qui en font un tube de pop synthétique anglaise. Et je ne parle pas de Depeche Mode, évidemment, et de ce que fait Human League avec Don't You Want Me. Mais il n'empêche qu'il fonctionne aussi avec le même type de choses. Alors, par exemple, une boîte à rythme qui s'appelle la CR78 Roland. Toutes les informations que j'ai là sur le matériel, c'est Dance qui me les a données. Donc on peut être sûr que c'est le bon matériel utilisé. Et sur le premier album, c'est cette boîte à rythme qu'ils utilisent, qui était déjà un peu plus complexe que la Dr. Rhythm 55, qui était une petite boîte à rythme grande comme mon cahier ici, on pouvait faire 4 rythmes avec 4 sons. Là, on est déjà un peu plus complexe, mais ce n'est pas encore la plus sophistiquée qu'on peut trouver à cette époque-là. On verra ça après. Et des synthés, ce qui est intéressant dans la production du son de Cass Product, c'est que tous les synthés qu'il va utiliser, il commence à les acheter à la fin des années 70, sont tous des synthés qui sont monophoniques ou duophoniques, et non pas polyphoniques. C'est-à-dire qu'on peut faire un seul son à la fois, ou, sur les duophoniques, deux sons à la fois, mais pas plus. Donc ça va évidemment inclure dans l'écriture un certain nombre de choses. Et ce qui fait que sur scène, par exemple, ils se baladaient, parce qu'en plus, ils ne sont pas programmables. Donc il faut retrouver les sons à chaque fois en modifiant les low frequency oscillators, etc. Enfin, tous les boutons que vous voyez là. Et encore, il n'y a plus les patchs. Hein, donc tous les sons, il faut les retrouver à chaque fois. Et donc, une fois qu'il avait calé le son, il ne peut pas se permettre de modifier sur scène en direct le truc. Donc il avait 6 ou 7 synthés pour un truc qu'il avait enregistré avec 3 synthés en studio. Il avait aussi donc, le Korg 770S qu'on voit ici, le Korg 800 DV, l'inévitable à cette époque-là Mini Moog, qu'on retrouve à peu près partout, y compris dans des groupes de prog rock à cette époque-là. Et aussi, si vous écoutez attentivement l'album, il y a du piano acoustique qui lui a servi pour faire parfois des effets de son. C'est très facile avec un piano acoustique, par exemple, de couper l'attaque et d'avoir donc un son dans lequel il n'y a qu'une résonance, etc., etc. Sur le deuxième album, en revanche, on a un nouvel instrument, alors là, qui est reconnaissable entre mille, hein, puisque quand je lui ai dit, je suis sûr que c'est une TR-808 sur Bypass, mais en revanche, je ne reconnais pas celle de Tryout. Il utilise cette boîte à rythme sur Bypass. Et puis, il y a une chose aussi tout à fait particulière qui va les différencier de la pop synthétique anglaise de cette époque-là, en tout cas les plus extrémistes, hein, qui sont Human League, Depeche Mode, qui n'utilisent absolument pas de guitare, c'est qu'il y a la guitare de Mona Soyok. Alors, j'ai mis celle-là parce que je n'ai pas retrouvé la sienne de l'époque, tout simplement parce qu'elle me dit que c'est une pauvre guitare achetée dans un supermarché, comme ça pouvait se faire à l'époque. Les Dan Electro, par exemple, étaient vendus dans des supermarchés à l'origine, et branchées dans un ampli de chaîne EFI, en fait. Parce que je l'ai dit, il y a quand même un truc qui est assez bizarre, et je me suis basé sur les mémoires de Viv Albertine, qui était la guitariste des Slits, qui dit à un moment donné, je voulais un son de guitare qui me soit propre, quelque chose qui ressemble à un grésillement d'abeilles ou je sais pas quoi, et en tout cas qui s'éloigne du son masculin, c'est-à-dire qu'elle voulait une guitare qui soit féminine quelque part et qui soit un son tout à fait spécifique. Et j'ai dit à Mona d'où vient le son, et elle m'a dit non, ça vient juste du fait que j'étais une guitare pourrie dans un ampli pourri et qu'on a gardé ce truc là. Donc tout ça, c'est l'environnement musical qu'on retrouve dans Cass Product. Et puis, il y a aussi, évidemment, une voix. Alors là, il y a deux chanteuses. Il y a deux chanteuses que je mets ici parce que souvent, on a comparé Mona Soyok à Siouxsie. Alors, je veux bien, il y a parfois des intonations qui ressemblent à Siouxsie, notamment sur un morceau dans le deuxième album, qui musicalement déjà ressemble, peut se rapprocher de Siouxsie and the Banshees. Mais s'il y a une chose qui est certaine, hein, paix à son âme, mais Siouxsie, elle chantait faux, ce qui n'est pas le cas de Mona. Et elle avait une voix qui était relativement monocorde, Siouxsie, alors que Mona a la capacité quand même de faire beaucoup de choses. Pourquoi ? Et c'est dommage qu'on ne puisse pas l'écouter, mais parce que dans sa voix, il y a quelque chose qui est aussi relativement rare à cette époque-là dans les groupes, sauf après quand on voit des groupes pop qui passent à Top of the Pops comme Alison Moyet pour Yazoo, hein, qui avait aussi une voix assez chaude et assez jazz, c'est que la voix de Mona Soyok est une voix jazz parce qu'elle a eu un background jazz, et quand Cass Product va s'arrêter dans les années 90, elle va chanter dans un groupe jazz aux États-Unis ou au Canada, je ne sais plus. On va essayer de mettre ce truc parce qu'il y a un document qui date du milieu des années 80 où elle chante justement un morceau de jazz. Quelle a été la réception après l'album, évidemment, dans la presse? Alors, je n'ai pas retrouvé grand-chose, et puis, à vrai dire, j'ai pas non plus trop cherché, mais voilà, par exemple, la critique qui est parue dans Allée Intégrale, là, dans Best, sous la plume de Michel Ambarek. Peut-on encore dire, après un disque pareil, que la vague synthétique est chiante? Non. Peut-on encore nier, après un disque pareil, que les nouveautés les plus intéressantes du moment sont françaises? Non. Peut-on encore douter, après un disque pareil, paru chez RCA, de l'avenir des petits labels comme Punk Records, qui découvrit le merveilleux couple nancéen? Non. Dois-je ajouter quelque chose? Non. Donc je ne vais rien ajouter non plus. Si ce n'est qu'après le premier album, il va y avoir encore deux productions, qui est le Maxi 45 Tours Looney Bean, qui est absolument fantastique, et puis le Bypass, qui sont encore chez RCA. Et puis le deal avec RCA pour des histoires de producteurs qui est parti, qui part chez Musidisc, qui n'est pas Gérard Nguyen, mais qui les a aidés chez RCA, qui les a fait signer, s'en va chez Musidisc. Mais il se passe quand même 3 ou 4 ans avant que ne paraisse le dernier album officiel de Case Product, qui s'appelle Ego High, et qui là sonne un tout petit peu plus pop pour le coup, effectivement. Celui-ci est sensiblement différent du reste, avec du son qui a un peu changé, puisque en 86 on est passé évidemment à des synthés numériques, des choses comme ça, donc il y a aussi une petite modification du son par rapport à tout ça, et un autre matériel. Voilà donc très très rapidement brossé une sorte de portrait de Case Product, et qui est vraisemblablement qui est un groupe punk. Et pourquoi est-ce qu'il est un groupe punk? Je crois que c'est Jean-Éric Perrin qui m'a donné la meilleure définition de tout ça. Il m'a dit, en fait, il faisait avec des synthés ce que faisaient les autres avec des guitares. On n'est pas dans la jolie mélodie de l'électropop britannique, qu'on peut retrouver, encore une fois, chez Human League, chez Depeche Mode, Orchestral Manoeuvre in the Dark, hein, on est loin de Enola Gay ou de Souvenir. On est dans une énergie avec des sons qui sont saturés, avec des sons qui sont brutaux, dans des tempos qui sont parfois élevés, mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a une influence jazz, ne serait-ce que cette chanson extrêmement érotique qui est Pussy X qui achève l'album, ou avec d'autres morceaux qu'on va retrouver dans Bypass, avec tout ce background jazz, blues jazz qui revient et qui là est beaucoup plus rare chez les Anglais, parce que les Anglais du post-punk voulaient complètement éradiquer le côté blues de la musique. Hein. Voilà. Et donc, je crois que pour la première fois depuis que je suis dans PIN, je parle d'un groupe qui, à défaut d'avoir la musique qui peut correspondre aux archétypes qu'on a du punk, c'est-à-dire les guitares à fond, la distorsion, etc., va avoir une esthétique qui, elle, va y répondre en s'échappant des archétypes, en s'échappant de tout ce qui est aussi cette espèce de violence qu'on a chez les Sex Pistols, qu'elle soit feinte ou qu'elle soit réelle, peu importe, ou après, chez les Exploited, avec le Punk Is Not Dead, justement. Là, on va avoir une énergie de quelque part de... Comme le disait Mona dans une interview relativement récente, parce qu'ils sont revenus un peu sur la scène, j'allais dire le devant de la scène, mais le devant de la scène est tenu par d'autres personnes qui sortent d'émissions de télé. Avant, elle était extrêmement énervée, aujourd'hui, elle n'en a plus rien à foutre, c'est ses propres paroles, mais en même temps, dans Never Come Back, elle dit « I don't give a shit what you say » aussi, donc on est dans cette énergie punk, à la fois dans les textes, sans que ce soit une revendication végane ou quoi que ce soit, encore à cette époque-là. Et... Voilà, rapidement, donc, brosser le portrait de ce groupe qui est peut-être, de cette époque-là, le groupe lorrain qui a marqué la scène et le territoire. Et je n'aurais pas pu dire et donner tous ces détails sans l'aide et les réponses que m'ont apporté gentiment. Et Mona Soyoc, et Dan Spatz, et Gérard Nguyen, et Jean-Éric Perrin, je vous remercie.
Ça marche pas? Si, super. Ben, merci Philippe pour cette communication très éclairante sur Case Product.
Oui, j'aurais aimé qu'on puisse écouter les morceaux, mais bon.
Ouais, alors tu soulignes, enfin moi l'impression que j'en ai hein, aussi, ce qui fait effectivement sur l'utilisation du synthé, c'est que c'est des riffs en fait. Ils jouent des riffs comme des riffs de guitare, et c'est ça qui donne ce côté en tout cas rock et punk en particulier. Ouais. C'est des riffs, c'est du riff en fait, ça pourrait être joué à la guitare. Ça c'est la première chose. En plus, ça préfigure, enfin ça préfigure ou ça accompagne des choses qui vont se faire. Ben, l'utilisation de la boîte à rythme, tu l'as dit, et puis cette espèce de côté duo qu'on va retrouver avec les Bérus finalement, d'une autre manière, ouais, ouais. D'une autre manière, alors, un truc assez radical.
Perrin m'a fait un rapprochement qui est peut-être encore plus intéressant que celui que tu viens de faire, parce que aussi pertinent, il l'a rapproché de Métal Urbain.
Oui, oui. Mais, sauf que c'est pas un duo, mais effectivement, c'est l'autre aspect. Parce que là, il y a du synthé, du coup, utilisé de manière
et de la boîte à rythme.
Agressif, ou en tout cas très, très rock. Exactement, aussi, ouais. Et aussi sur des questions de bruitage, hein, que tu as évoqué, ouais. Aussi, qui constituent cet univers sonore très, très punk. Mmh. Hein, où, voilà, ouais. Où,
mais sur les riffs, tu as raison, parce que c'est ce qui les caractérise aussi dans l'écriture, et en tout cas celle de Dance, parce que je pense que c'est surtout lui qui compose. Mona s'occupe de tous les textes. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que souvent, elle joue sur une certaine scénarisation dans les textes. Hein. J'ai pas parlé de ça, mais il y a le morceau qui s'appelle Underground Movie, il y a même Pussy X, qui est un dialogue entre le chat et d'autres personnes, et on trouve souvent cette façon d'écrire aussi.
Et puis alors là, dans Pussy X, on pourrait aller aussi du côté des textes, parce que alors on trouve quelque chose qui est finalement très, très sexuel, hyper sexualisé, un petit peu comme le fait de porter des attributs du fétichisme, ce que faisaient les punks aussi, mais là c'est construit avec des mots, et c'est une chanson extrêmement marquante aussi, que je trouve vraiment très originale à l'époque, hein, parce que aujourd'hui ça peut paraître évidemment évident, sauf qu'on est en 80, 81, 82,
et que quand on a 16-17 ans et qu'on écoute Mona Sayoc miauler, c'est effectivement extrêmement marquant, oui.
Exactement.
Michel.
Attention, voilà Monique.
Voilà Michel, surtout.
C'est de la merde de la sono ce soir. Bon, je suis pleinement d'accord avec vous. C'est que ce disque, on me l'a donné dans les débuts des années 80 par une de mes grandes sœurs. Et sûrement. Et on a été totalement subjugué par le son. Qu'avait ce groupe à l'époque, hein, mine de rien. Et on savait que ça venait de pas loin, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure, tu parlais que tu étais très mal de. Tu n'as pas trouvé beaucoup d'articles, mais moi, je me souviens d'un très bel article dans Metal Hurlant.
Oui, non, j'ai dit, j'ai pas cherché les critiques. Les articles, pardon. J'en ai plein, mais les critiques.
C'était une très belle critique de Philippe Manœuvre, à l'époque, qui bossait dans Metal Hurlant, et que j'ai peut-être encore, un jour je te la filerai si tu veux, d'archives, ouais. Et peut-être que je l'ai encore, même. Donc moi j'ai une très très bonne. C'était un groupe qui sortait du lot, tout simplement.
Complètement.
Et c'était voilà, merci pour ta prestation. C'est tout ce que je voulais dire.
Donc, et puis la pochette est parlante aussi, hein, sur un certain univers.
Et les pochettes étaient aussi parlantes, je suis d'accord.
Voilà.
Bon, alors du coup, comme on est déjà pas dans les temps, mais c'est pas grave, hein, on prend le temps ici, c'est plutôt bien. On va, est-ce qu'on a on a 5 minutes de prévu de coupure? On va couper 5 minutes et le temps d'installer les deux autres, comme. Voilà.
Et merci. On remercie nos deux intervenants, Philippe et Fabien. Merci encore, messieurs, pour vos interventions très éclairantes.